I got glue and chore pour I to the pipe.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit te peux pas m'engarer, pas m'engarer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite sauce a une belle plume de haut. Pas m'engarer, pas m'engarer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai, mais aux quatre coins. J'en ferai pas au nom de qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Dans la bande-son de mon enfance, il y a un disque qui est tout particulièrement marquant et dont nous allons vous parler aujourd'hui. En se tournant des années 70 aux années 80, loin des tubes disco de l'époque, ce qui faisait alors danser ma famille et nos amis, c'était les Scottish, Vals, Polka et autres bourrées présentes sur ce vinyle intitulé Gabriel Vals, Bal Folk. Les années ont passé, il a peu à peu disparu des platines et, mine de rien, cet enregistrement sorti en 1974 fête cette année ses 50 ans. À cette occasion, nous sommes partis sur les routes collecter la parole de ceux qui ont vécu cette époque et qui ont contribué à la réalisation du disque. Avec en particulier la volonté de rendre hommage à Pierre Toussaint, héros méconnu du revival folk. L'écho du parquet te souhaite un joyeux anniversaire, Gabriel Vals.
À l'Encadeillon, dit Cachetoun, en 74, j'ai participé à l'enregistrement du premier disque, de mon premier disque, Gabriel Vals, il y a 50 ans.
Alors, pour moi, Gabriel Vals est lié pour toujours à la Saint-Sylvestre, parce qu'on organisait la soirée de la Saint-Sylvestre au foyer. Il y avait deux disques qui passaient pendant la soirée, c'était Gabriel Vals et Roger Cifer. Et on avait comme ça, peu à peu, on a été initié par Marie, qui était la pro de la danse folk. On a dansé que ça, et pendant presque une dizaine d'années, toutes les Saint-Sylvestre, c'était Gabriel Vals.
Je devais être en première, en terminale. Et puis, il y avait atelier danse folk une ou deux fois par semaine, entre midi. Et puis, il y avait la bourrée traditionnelle, bourrée, andro, interdro, etc. Et donc, le seul support qu'on avait, c'était Gabriel Vals. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Gabriel Vals.
Il n'y avait pas énormément de monde.
Marc Perron, musicien sur Gabriel Vals.
Qui dansait, mais suffisamment pour faire une ambiance. Et puis, on avait bien travaillé avec Jean-Pierre, Cachetoun, et on avait bien bossé notre affaire. Moi, j'avais 22 ans. On était tous un peu dans nos petits souliers, quand même. Enregistré en direct. Hein. Mais on l'a fait.
C'est la première pierre, quoi.
Edith Nicolas, initiée au folk par Gabriel Vals.
Après, je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui, ils aimeraient ce son, ou je ne sais pas. J'aurais dû le réécouter, c'est dommage.
Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes d'aujourd'hui?
Moi, je trouve ça rigolo quand même, parce qu'en fait, on arrive un peu...
Naël Tripoli, jeune musicien, le duo des Cimes, Cosmos Chocolat.
Bien après tout ça, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, je sais que pour ma part, on a les CD de Perlimpinpin, tout ça, et on se demande souvent mais comment ils ont su en arriver là, et quand on écoute Gabriel, on se dit quand même oui, que ils ont commencé comme tout le monde. Simplement, en fait, il n'y a aucun thème qui était arrangé avec des arrangements. Enfin, c'est super intéressant quand même d'écouter ça. Et oui, ben, je pense que même musicalement parlant, ça peut aujourd'hui servir de base pour apprendre la musique. Et j'ai appris, ou plutôt réappris, une mélodie dessus qui me plaisait bien, c'est la polka de l'Aveyron.
Donc toi, tu dirais que la danse, elle s'est développée un peu partout à la suite de Malataverne et...
À la suite de Malataverne, exactement.
Jacques Benahim, dit Ben, musicien, acteur des débuts du revivalisme folk.
Et aussi grâce justement au travail de Pierre Toussaint, qui a décidé de faire un disque avec ses amis musiciens du moment. Et puis, il a fait ce disque à toute vitesse. Ils n'ont pas tellement travaillé dessus. Ils avaient envie de mettre des danses et quelques chansons. Ça s'est appelé Gabriel Valls à cause d'une des chansons qui venait de Louisiane. Et ça a été... c'est comme s'ils avaient allumé la mèche des balles en France avec ce disque-là.
C'est sorti, c'était le disque dont on avait besoin.
Marie-Odile Chantran, professeure de danse depuis les années 70.
Moi, je ne pense pas l'avoir utilisé, mais tout le monde, ça a permis à tout le monde de faire des balles. C'est-à-dire que, mais on avait cette telle appétence pour danser, que, et même des musiciens qui allaient apprendre les morceaux du disque, par exemple. Enfin, c'est parti. Et des gens qui l'achetaient, qui l'écoutaient chez eux parce que ça leur donnait envie de danser. Mais c'est parti comme des petits pains. C'était vraiment le premier disque de bal et le disque qui correspondait absolument à un besoin et un bonheur, quoi.
My story, if you will, I'm gonna tell about a gang of fellers from down at Nashville. First I'll start with old Red Foley doing the Chattanooga Shoe. We can't forget Hank Williams with them good old Hussack Blues. It's time for Roy Acuff to go to Memphis on his train with Minnie Pearl and Rod Brassfield and Lazy Jim Day.
Au tout départ, qui nous passionnait, c'était la musique américaine. Donc, la guitare, le old-time, et le premier folklore vraiment situé, c'était le TMS, le Traditional Mountain Sound, au cœur de Saint-Germain, quoi. Puis, après le centre américain, il y a eu la création du Bourdon. Et là, qui s'est davantage spécialisé dans la musique française ou hexagonale. Voilà. Et à partir de là, on a commencé à étudier la musique berrichonne, la musique auvergnate, la musique du sud-ouest, les rondeaux, polkas, scottish.
Un des premiers disques, avant qu'il y ait eu des musiciens français à enregistrer des disques.
Hein. Benoît Chantran, violoniste, musicien sur Gabriel Valls.
Il y avait toujours des musiciens nord-américains qui étaient là, oui. Enfin, soit présents. Les grandes, les deux, les trois les plus connus qu'il y avait en France sur le folk au début des années 60, enfin à la fin des années 60, c'était Steve Waring et Roger Mason. Tout le monde se retrouvait au centre américain, et c'était Lionel Rochman qui animait les soirées Outnani. Donc c'était déjà de la pratique américaine, dans lesquels il y avait des Américains, et de très nombreuses personnes jouaient de la musique américaine. Il y a des gens qui n'ont jamais joué de musique française.
Et Outnani, c'est ni plus ni moins que de donner la possibilité aux gens qui ont envie de s'inscrire sur une liste et de jouer deux, trois trucs à eux, dans le cours d'une même soirée. C'est une idée très importée du folk américain, de Pete Seeger et tout ça. Bon.
Donc oui, il y avait une très forte influence américaine, et on découvrait, à cette époque-là aussi, on découvrait les Cajuns, la musique des Cajuns, qui chantaient dans un pseudo dans un français qu'on ne comprenait pas bien. Donc c'était super les Cajuns, et dans tous les festivals, il y avait des gens qui faisaient de la musique Cajun, festivals en France je veux dire, et... Oui, il y avait plein de musique cajun. On a commencé à jouer de la musique québécoise. Déjà, à l'époque, on pensait aussi aux musiques québécoises. Hein. Et dans son premier disque, Marc, il a des morceaux québécois. Le premier disque de Marc, il vient pas très longtemps après Gabriel Valls.
Avec moi, quand t'es à la maison. Développement musical personnel en tant que musicien à ce moment-là.
À ce moment-là,
c'était la guitare qui t'intéressait au début, mais t'étais encore guitariste.
Depuis longtemps de la guitare, j'étais assez bon guitariste et j'ai commencé l'accordéon. Je crois que quand on a enregistré le disque, je jouais de l'accordéon depuis une petite année et encore. J'ai vu à la fête de l'UMA des musiciens cajuns de Louisiane, et là j'ai eu un coup de foudre pour jouer le petit accordéon. Parce que c'était de l'accordéon pas pareil. Parce qu'à l'époque, l'accordéon c'était vraiment... Pour nous les jeunes, c'est guitare. L'accordéon c'était ringard, has-been. Et puis là, j'ai vu ce petit accordéon. Ah, ça m'a... C'était un coup de cœur. En plus, c'était de la musique un peu bluesy. Voilà, donc voilà, c'est pas ça.
Alain Cadeillan, on me surnomme Cachetoun depuis très très longtemps, depuis que j'étais en quatrième ou en troisième au collège, au lycée, à Agen. Alors comment je suis venu au folk? J'étais donc dans ce lycée à Agen, pas dans la même classe, mais je connaissais un peu Jean-Pierre Cazade, qui a un frère qui s'appelle Michel Cazade, qui lui avait quelques mois d'avance sur moi. Et un jour, ce Michel Cazade a rencontré Ben, et le grand-mère Funibus Folk, et ce groupe a joué à Montflanquin, dans le nord du Lot-et-Garonne, et Jean-Pierre m'a dit, tiens, ce soir ou cette semaine, il y a un concert, je crois qu'on appelait ça comme ça, à Montflanquin, c'est le grand-mère Funibus Folk qui joue, donc j'y suis allé, et là je suis un peu tombé de ma chaise, enfin j'étais allé rarement au concert, mais là c'était des jeunes gens barbus, bariolés, qui jouaient des instruments étranges, des dulcimers, des vielles à roues, qui arrivaient comme ça, qui disaient rien, qui saluaient, qui racontaient des histoires. À la fin du concert, ils ont distribué des instruments à tout le monde, des cuillères, des flûtes, et puis on a joué ensemble un peu n'importe quoi, mais voilà, c'était étonnant, quoi. C'est pas la première fois que je côtoyais des musiques traditionnelles, que je voyais ça, mais en concert, c'était la première fois.
De toute façon, c'était le maître mot du folk, c'était... T'as jamais fait de musique, t'as envie d'en faire, bah vas-y, essaye. C'était une rupture complète. C'était une époque quand même très importante. 68 était pas loin. Il y a eu des renversements. On avait quand même l'idée de renverser un peu ce qui était institué. Les groupes folkloriques, qu'on n'aimait pas du tout, parce qu'on voyait bien que c'était du pipeau, rapport à l'authenticité, etc. Et puis, la musique, telle qu'elle était enseignée dans l'institution, les conservatoires, les écoles de musique, l'écriture d'abord, la lecture d'abord, le jeu après. Quoi. Mmh. Et là, bah, c'était... T'as envie de jouer, bah vas-y, essaye. L'empirisme contre-attaque.
Mes parents sortent tous les deux de familles relativement bourgeoises.
Arielle Toussaint, fille de Pierre et Béatrix Toussaint, musicienne sur Gabriel Valls.
Et en fait, il y a eu cet appel de... Comme à l'époque, enfin, je veux dire, c'est ce phénomène hippie, beatnik, etc. C'était la bohème. Et donc, c'est vrai que même si vous étiez plus âgé, il y a eu une espèce de relation très forte qui s'est créée avec tout ce milieu-là. Donc nous, ça nous... En fait, on a adoré aussi ces gens-là. On a adoré ce milieu-là.
Gabriel Valls, c'est pas que trad, c'est bien folk, parce que quand on regarde ce qu'il y a dessus...
Toute la bande du Perlimpinpin folk.
Il y a le saut du lapin, comme il y a en avant-bruge.
Je me souviens d'avoir joué à Rodez, où c'était Perlimpinpin folk. Il y a quelqu'un qui nous a dit, c'est très bien ce que vous faites, mais c'est pas du folk. Le folk, ça se fait à la guitare 12 cordes et on chante en anglais. Bon, donc ça a changé de... C'est après que traditionnel, la musique traditionnelle, le terme est arrivé un peu plus tard. Ouais. Et c'est que des étiquettes.
Il fallait différencier aussi folk, folklorique et traditionnel. Je pense qu'il y avait aussi...
Oui, mais folklorique, ça peut avoir un sens très péjoratif.
Tout à
très
fait. Oui, les groupes folkloriques, c'est quoi votre...
C'est des mots un peu piégés.
Voilà, mais c'est pour ça qu'il fallait dissocier tous ces...
À l'époque, folklorique, ça faisait plus musée, quoi, si tu veux. Tu vois, les costumes, le truc. Alors que nous, c'était pas du tout cette démarche-là. Mais...
Je dirais que les études ethno-coréologiques, puisque c'est comme ça qu'on doit dire, donc elles ont commencé... Dès les années 40, Jean-Michel Guilcher était envoyé par le musée des arts et traditions populaires. Il a fait sa thèse sur la Bretagne, il a travaillé sur l'Aubrac. À ce niveau-là, on a le mouvement des chercheurs, mais qui étaient aussi des danseurs. Jean-Michel Guilcher, il animait des ateliers. Et en particulier, sous son égide, enfin, bon, là, ce serait plus des gens... Plus de dépit que pour dire. Sous son égide, il y a eu des tas d'ateliers de danse populaire en région parisienne, dans les années 50 et 60, avant le folk. Et il y a des gens qui traînaient là-dedans. Déjà, c'est les gens de Mélusine. Et ensuite, alors ce qui a été confronté ensuite, c'est l'histoire de la danse vue par les gens qui y sont allés en tant que chercheurs. Hein. Pour recueillir, donc ils sont allés en premier, et ensuite les folkeux qui ont voulu justifier leur pratique en la faisant la continuation de ce qu'ils avaient auprès de chez eux. Et c'est là, et c'est ces gens-là dont le collectage et la connaissance est très locale.
Quand on était à Ponce, les gens commençaient un petit peu à danser, mais ne savaient rien de la danse. Personne ne savait, à Paul Capiquet un peu.
Même au Bourdon,
Ça dansait pas. Et puis là, l'envie de la danse, ça commençait à germer. Et il y avait une grande appétence des gens pour la danse. Et je me souviens, le premier truc que j'ai appris pour faire danser, c'était la danse de l'ours, qui était une danse... pam, 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 pam. Qui était une danse flamande. Et puis, j'ai un petit qui danse. C'est dans ça, mais le reste, je savais pas trop. Puis, je rencontre Pierre d'un Papin. Et là, j'y cours le rondeau.
Premier bal folk que j'ai fait, enfin avec Perlin Pimpin, parce qu'au début on faisait de la musique, on appelait ça un concert, je ne sais pas si c'était un grand mot, mais les gens ne savaient pas danser de toute façon. Donc ils écoutaient ce qu'on racontait, ce qu'on jouait, mais ils ne dansaient pas, non. Et même quand on jouait des danses. Et un jour, Pierre Toussaint nous a dit, il faut faire danser les gens. Et je me rappelle avoir fait un bal sous la halle de Verfeil-sur-Seille, en Tarn-et-Garonne, où on a joué quelques polkas, valses, rondos, bourrées, je crois, qu'on connaissait à peine. Hein. Et les gens, on leur disait, mais il faut danser. Alors ils ne savaient absolument pas danser, ils esquissaient quelque part. Je ne sais plus si nos copains et copines savaient mieux danser, à peine, mais on s'invitait, on se débrouillait comme on pouvait. Et petit à petit, les gens ont commencé à faire des farandoles, à faire un peu n'importe quoi. Et puis après, on a rencontré des gens qui savaient danser, ou au Conservatoire Occitan, ou plus tard, on a fait du collectage chez des personnes âgées qui avaient dansé ça dans leur jeunesse. J'ai un peu joué pour mes grands-parents, qui n'avaient pas dansé le rondo depuis 50 ans ou plus. 50 ans pour nous, à l'époque, ça faisait une éternité, alors qu'aujourd'hui, c'était hier, on a enregistré Gabriel Valls. Wow.
Par rapport aux danses, c'est surtout Pierre Corbefin qui nous a beaucoup aidés, quoi, puisque Pierre, il était directeur du Conservatoire Occitan.
Maryse Bruma, musicienne dans Perlin Pimpin Folk.
Et il était aussi animateur des ateliers de danse. Et c'est surtout lui qui nous a aidés à acquérir tous ces pas de danse, en particulier du rondo. Mm-hmm. Voilà. Et ensuite, bon, il y a beaucoup de gens, dans la foulée de Pierre Corbefin, beaucoup de gens qui ont monté les ateliers de danse un peu plus précis, qui ont fait de la transmission de danse un peu plus que ce que nous on aurait pu faire. Si vous auriez vu comment on dansait les bourrées, on faisait de la bourrée d'Auvergne aussi à l'époque. Mais vous auriez vu comment on dansait les bourrées d'Auvergne, maintenant quand j'imagine, c'était honteux quoi. Mane mia la guardavo dalle sverbi in notte, che bussi venendere l'ullala, che bussi venendere in notte, che bussi venendere l'ullala, che bussi venendere in notte. Mane mia la guardavo dalle sverbi in notte, mane mia la guardavo dalle sverbi in notte. Mi chiedevo sulla guardame lunga in giù in drole, che bussi venendere l'ullala, che bussi venendere in notte, che bussi venendere l'ullala, che bussi venendere in notte. Mi chiedevo sulla guardame lunga in giù in drole, mi chiedevo sulla guardame lunga in giù in drole. E mi gara prendra sassi l'erbe mia pausata, che bussi venendere l'ullala, che bussi venendere in notte, che bussi venendere l'ullala, che bussi venendere in notte. E mi gara prendra sassi l'erbe mia pausata, e mi gara prendra sassi l'erbe mia pausata, e ti tolte mia pausata, notte mia riguarda. En 74, j'étais déjà dans un groupe de musique où il y avait Cachetoun, Jean-Pierre, son frère, et on faisait beaucoup de musique, beaucoup américaine d'abord. Et puis on a rencontré des gens qui faisaient du folk, et on s'est mis à jouer du folk. Et on avait effectivement monté un groupe. Un club de folk, à Agen, où on a proposé ça à toute la paroi de presse, à tous les gens de par là, et puis ça a marché. Les gens sont venus, et on a commencé et continué à faire de la musique.
Et donc, c'était le début de Perlin Pimpin, ouais. Donc on faisait de la musique traditionnelle en piquant des airs à droite, à gauche, sur d'autres groupes, hein, le grand-mère Funibusque, Michel Hindenock, tous les Jean Blanchard, enfin tous les gens qui avaient quelques mois ou quelques années d'avance sur nous. Et après, on s'est un peu plus intéressé à la musique du Sud-Ouest, Gascogne et Occitane en général, quoi.
Alors, la boîte à folk, c'était un atelier de lutherie qui était à Agen. Et donc, à la boîte à folk, ils fabriquaient des dulcimères, ils réparaient un peu des violons. En fait, il y avait beaucoup de gens qui construisaient des dulcimères et des épinettes des Vosges à l'époque.
Pierre, Alors, Pierre, il jouait de tous les instruments. Hein. Il prenait une guitare, il prenait... Alors, il a fait la connaissance de tous ces instruments folkloriques, comme l'épinette, comme
le dulcimer,
voilà, enfin, voilà. Et donc, pendant qu'on faisait quelquefois des trajets, je suis en Suède, on n'en voyait pas la fin d'arriver en Suède, et lui, il avait un dulcimer sur les genoux qui débordait sur les miens, et il s'exerçait. Alors, je lui ai dit, ben, tu vois, quand... quelqu'un veut jouer du violon, tu lui dis « Va très loin, tandis que toi, je subis ça dans l'oreille. » Et bon, et bien, à la fin du voyage, il savait jouer du dulcimer.
À cette époque-là, depuis une petite année, je fréquente beaucoup, j'ai un ami que j'aime beaucoup, c'est Pierre Toussaint, qui était très impliqué dans les tout débuts du mouvement folk, puisqu'il a aidé à organiser l'Ambasque à la Taverne, les tout premiers festivals. Et en fait, je les ai rencontrés vraiment le jour où je suis allé à la réunion annuelle de l'association Folk Song International, dont Pierre était président à l'époque. Et là, j'ai découvert tout le monde. Alors moi, j'arrivais de ma banlieue, j'avais les cheveux courts, j'étais grand, plutôt baraqué, sportif. Et là, je tombe sur des gars hirsutes avec des cigarettes qui sentaient bon d'odeur. Mais j'ai rencontré tous les tenants du folk à l'époque. Alors, en premier lieu, je pense, il y avait Jacques Benaïm, Roger Mason, Steve Waring, Catherine Perrier, John Rice, enfin tous ces gens-là.
Et puis, en juin 1973, a eu lieu une fête organisée par les commerçants de la place de la Contrescarpe à Paris et de la rue Mouffetard. Et là, il y avait tous les folkeux de la région parisienne qui étaient là. Tous ceux qui avaient de la bouteille un peu. Il y avait ce qui allait donner Mélusine, ce qui allait donner, je ne sais pas, sûrement d'autres groupes, ce qui allait donner la bande à Toussaint. Et il y avait, donc chacun des groupes avait un son un peu particulier. Et moi, il y avait un groupe dont le son me plaisait bien. Il y avait une guitare, un accordéon et un violon. C'était la bande à Toussaint. Il y avait Pierre Toussaint qui jouait du violon, Robert Gardette qui jouait de la guitare et Marc Perron qui jouait de l'accordéon. Et je me suis mélangé à eux. Enfin, je suis allé avec eux dans le café. Il y avait beaucoup de chansons à répondre. J'ai répondu de bon cœur. Il y avait des cacailles qui traînaient sur les tables. J'ai pris un triangle. J'ai regardé comment ils jouaient du triangle. Et puis, je trouvais que ça allait vachement bien, que c'était vachement facile. Et donc, je me suis mis à participer à la soirée, comme ça. Ils m'ont évidemment discuté au cours de la soirée. Et ils m'ont dit, si tu veux... Le week-end prochain, on va jouer dans Normandie, je ne sais plus où exactement. Et on a pas de voiture pour y aller. Et moi, à cette époque-là, j'avais le privilège d'utiliser la deux chevaux de mon père. Donc j'avais cette deux chevaux à disposition. Et j'ai dit, si vous voulez, je vais avec vous. J'étais vraiment enthousiasmé, quoi. J'avais 19 ans.
Photographe, journaliste, il aimait se promener, etc. Et
Arielle Toussaint, fille de Pierre et Béatrix Toussaint, musicienne sur Gabriel Valls.
En 1967, il est embauché définitivement par la Maison de Marie-Claire. Et dans la Maison de Marie-Claire, il fait une rubrique qui est iconique, qui s'appelle « Les vieilles maisons à retaper ». Et donc, ils vont traverser toute la France pour chercher les vieilles ruines, les proposer aux Parisiens et aux gens des villes. Et là, il y a ce mélange entre à la fois tout ce travail pour les vieilles maisons et finalement des retrouvailles avec cette musique populaire, ces histoires populaires, parce que tous les gens racontent beaucoup d'histoires à Pierre et Béatrix. Et donc ça, c'est en 67. Et deux ans plus tard, ils ont rencontré un musicien américain Et pour ce musicien américain, ils ont décidé, la plus grande aventure de leur vie, c'est d'organiser le premier festival de folk song international à Lambesc en 1970. Et c'est là où effectivement papa et maman rencontrent les seigneurs du folk en France. Donc c'était le Bourdon, c'est Catherine Perrier, John Boy.
Voilà, tout ce petit remue-ménage se faisait à l'intérieur de Paris. Et un jour, un homme est venu nous voir. Il a dit, voilà, il s'appelait Pierre Toussaint. Et il nous a dit, voilà, moi j'habite dans le sud de la France et je cherche des interlocuteurs et des gens avec qui organiser un festival en hommage à Woody Guthrie. Alors, quand il est arrivé, Pierre, on a vu tout de suite qu'il n'était pas... déjà, il n'était pas de notre génération, il avait 10 ans de plus que tout le monde. Et puis, il était propre sur lui. Il y en a peu parmi nous qui travaillaient, il y en avait, mais je veux dire, c'était plutôt décontracté. Et puis, lui, il travaillait déjà quand même depuis pas mal de temps, à droite à gauche, en tant que journaliste. Et certains l'ont senti comme quelqu'un de pas de notre milieu. Pourquoi, je sais pas trop. Enfin, c'était assez inexplicable, en fait. C'est-à-dire que Pierre, il a fallu quand même qu'il s'impose. Nous, quand on a vu les musiciens qui nous proposaient, on s'est dit, mais ça va être super, ça va être vraiment magnifique. Ça va être vraiment magnifique. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est quand même grâce à lui que, petit à petit, tous les groupes qui s'étaient formés sur Paris ont réussi à partir en province et jouer à droite à gauche, présenter leur musique ailleurs.
Oui, il a généré l'enthousiasme, lui. Parce qu'il était très enthousiaste déjà, et qu'il embarquait, facilement tout le monde. Il bougeait beaucoup.
Et là, j'ai rencontré pour la première fois le copain de Pierre, un papa folk. Grâce à Pierre Toussaint, c'était lui un peu le dénominateur commun. C'est un homme très... très chaleureux, très entreprenant, qui branchait les amis avec les amis, etc. Et je rencontre Perlin Papin, et il me dit, oh, ça serait sympa que tu viennes jouer avec nous à Agen. J'avais pas de choses à venir, donc j'ai dit ok. Et je me suis retrouvé à Agen avec eux, dans la boîte à polk. Et là, on a commencé à travailler, à jouer ensemble, et la suite arrivée, l'idée du disque. Par Pierre, toujours.
Point de départ, comment ils sont devenus musiciens, comment on est tous devenus musiciens, c'est parce que mes parents, après avoir traversé toute la France à la recherche des vieilles maisons à retaper, ont finalement acheté leur vieille maison à retaper, qui était dans le Tarn-et-Garonne, à Verfeil-sur-Seille. Et ça a été quelque chose d'absolument incroyable pour Pierre, qui en a fait un disque. Et là, ce sont ses compositions où il raconte toute l'histoire de le paradis dans les vieilles maisons. Tout le monde chante, on se décrète chanteur. Il convainc, bon, papa, il était très, c'était un super négociateur. Hein. Donc, il convainc le Chant du Monde, qui à l'époque faisait tous les disques avec Steve Waring, Roger Mason, que mes parents connaissaient bien à cause des festivals et des tournées. Il amène le projet à Madame Loreille, à Yvette Loreille, qui nous fait venir à Paris, on fait l'enregistrement, et donc c'est un succès, enfin un succès dans la presse, incroyable, parce que c'était la famille qui chante sur scène.
Comme les cartons.
Voilà, exactement.
Dès l'instant où on a eu cette maison, plein de gens sont arrivés en vacances. Et donc, ils mettaient leur tente dehors parce que voilà, la maison, elle était quand même sommaire. Et donc, tous ces gens participaient. Bon, c'était comme une communauté. On faisait la vaisselle dehors en cherchant l'eau du puits parce qu'il n'y avait pas l'eau courante. Et puis, tout le monde était dans une ambiance où les gens avaient envie de chanter, on chantait.
Et au Coussol, j'y suis allée une fois. Et alors l'idée, c'était tous les copains viennent et travaillent. Bon, voilà. Et bon, et il y a toujours le problème de la bouffe, quoi. Et alors leur truc, hein, c'est-à-dire, t'as 20 ans... Non, t'as 20 ans, quand t'as 4 heures, t'as faim, quoi. 4 heures de l'après-midi, t'as faim, et tu vois rien qui se dessine, quoi. Et puis, y a pas un rat à côté, y a pas une épicerie, rien. Et alors, je me rappelle, on avait coupé des orties pour faire de la soupe d'orties. Les copains étaient là pour travailler. Je pense que c'était une catastrophe que si on travaille...
Le lieu où on se retrouvait tous et où on répétait. Il y avait, alors on travaillait un peu dans la maison, mais il n'y avait pas de maître, il y avait pas de chef de chantier. Donc, Pierre, il m'a prêté son violon, il est parti bosser, puis il m'a dit, tiens, voilà, c'est ça, tu fais en sorte que l'archet aille perpendiculairement aux cordes, et puis tu te débrouilles pour poser les doigts. Bon. Et donc je me suis mis au violon, cet été-là, à Verfeil-sur-Seille, donc dans le Tarn-et-Garonne. Et à Verfeil-sur-Seille, il y a une halle merveilleuse, magnifique. Et ben presque tous les soirs, on allait là et on dansait. Et donc moi, je faisais l'animateur de danse, quoi. De peu que je connaissais, je savais rien. Enfin, j'avais vu, j'étais allé à deux ou trois bals folk, j'avais appris sur le tas à Ponce, au festival. Mais j'avais des connaissances tellement minables. Et pourtant, j'étais plein d'assurance, plein d'entrain et super animateur, je pense. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer pour faire danser les gens.
Et donc on était arrivé chez Pierre Toussaint parce qu'on avait pris la route de Verfeil après Saint-Antonin. Et c'était vachement bien. Les Toussaint, là, c'était la musique permanente, tout le temps. Il t'ouvrait une boîte de concert, et tout le monde qui tapait avec cuillère à fourchette et chantait. Ça arrêtait pas, à vrai dire.
C'était un nid à Verfeil-sur-Seille. Il y avait Colette Magny qui avait une maison, mais il y avait Madame Loreille, j'ai oublié son prénom, qui était...
Yvette,
ça oui, voilà. Qui avait une maison aussi, là, à Verfeil, et qui était au Chant du Monde. Donc ça doit être entre elle et Pierre Toussaint, que ça a dû se...
Thank you.
Alors, comment il y a le disque? C'est d'abord parce que Pierre avait fait un disque précédent auquel j'avais participé, qui s'appelle Le Paradis des vieilles maisons, où je joue de la guitare et un peu d'accordéon. Ça a été la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio d'enregistrement. Et donc, ça devait être la fin du printemps 73. En tout cas, Pierre, avec Chant du Monde, il a eu l'idée de faire un disque de bal avec Madame Loreille, qui est une femme formidable, qui était directrice artistique du Chant du Monde à l'époque.
C'était Pierre Toussaint qui dirigeait en quelque sorte le groupe La Bande à Toussaint avec les Perlimpinpins, parce qu'il y avait une grande révérence envers les Perlimpinpins, qui étaient les meilleurs musiciens qu'on côtoyait au jour le jour, quoi. Et cette idée du disque, c'est qu'on voyait des disques qui sortaient, des disques de folk. Je pense que déjà Grand-mère Funibus avait déjà sorti un disque. Il y avait peut-être un ou deux disques de... Ben, des disques des disques de festival. Et ben, il y avait besoin de celui-là parce qu'il n'y avait pas un disque dédié à la danse.
On s'est démarqué tout de suite des scientifiques qui ont voulu nous faire faire en fait des disques cartes postales.
Jacques Benaïm, dit Ben, musicien dans Grand-mère Funibus Folk.
Et on ne voulait pas faire une musique carte postale, ce n'était pas du tout notre chose à nous. On n'a pas du tout voulu avoir de contact avec les groupes folkloriques dont il nous semblait que c'était ce qu'ils faisaient, c'était vraiment suranné, c'était inintéressant et c'était quelque chose de, par contre, complètement fabriqué. On a tout de suite pris des répertoires qui partaient de la Louisiane, qui passaient par l'Amérique, qui arrivaient en France, qui arrivaient d'une région à une autre. Et même, je me suis mis à chanter des trucs en afghan parce que je trouvais que la musique afghane était très belle. On a tous adoré la musique d'Ouzbékistan. Enfin, voilà, on a fait des choses un peu partout. Et pour ce qui est de Gabriel Valls, ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire que les rencontres que Pierre Toussaint a faites au niveau des musiques qu'il a croisées avec ses propres disques qu'il a trouvés à droite à gauche, on fait des rencontres avec les rencontres des musiciens de Perlimpinpin, qui eux avaient des musiques occitanes, qui avaient des musiques qui venaient aussi d'un peu partout, puisque eux aussi ils avaient commencé par faire de l'américain, etc. etc. Et tous ces mélanges se sont faits sans plus trop se poser de questions. Ce qui comptait, c'était d'essayer de rendre les chansons qu'on avait entendues, de les rendre le plus belles possible.
La partie musique occitane, c'est Perlimpinpin, je crois qu'il a amené les bourrées, les polkas, rondos. Alors, je ne sais pas, moi, le rondo, il y a longtemps que je n'ai pas écouté le disque, mais il y a un rondo qui est sur le disque que mon grand-père chantait ou me sifflait. Là, c'est moi qui l'ai amené, mais ça me paraissait naturel. Et puis les autres, on avait commencé à faire un peu de collectage. Maryse Bruma et Jean-Pierre Cazade étaient allés voir un accordéoniste à côté d'Auch, Mirepoix. À côté d'Auch, et comment il s'appelait, Tarieux, monsieur Tarieux. Et je crois que sur le disque, il doit y avoir quelques airs qui nous a enseignés.
Et place pour le rondeau.
C'est la première fois qu'on a enregistré, enfin que moi j'ai enregistré en tout cas. Donc on avait répété, je ne sais plus trop comment, on s'était échangé des airs, je ne sais pas trop comment. On est arrivé chez Pierre Toussaint, puis on a joué plusieurs jours. On a mis ça au point comme on a pu, et puis on a répété chez lui. Puis après on est allé à la MJC, dont je ne me souviens plus le nom. Et on a enregistré avec des gens qui dansaient. Voilà, une espèce de petit bal... pas improvisé, mais c'était un public en tout cas. Ouais. Ouais. On avait quelques danseurs qui savaient un peu danser devant nous.
Ça a dû, on a été à Cannes pendant une semaine entière. Et on est resté là. Yvette avait loué la MJC pour une semaine.
Donc c'était en 1974. Et j'étais étudiant à l'IUT de Cachan à l'époque. Et je me souviens d'être allé voir un militant politique de l'IUT en lui disant oh, « Ce serait bien qu'on soit en grève au mois de février parce qu'il y a l'enregistrement du disque. » Et je me suis fait pourrir par le mec, de bonnes raisons, quoi. Hein. Mais quand même, on a été en grève à ce moment-là. C'était pas un bal qu'on enregistrait, hein. C'était des enregistrements où on mettait des danseurs en situation. C'est pas exactement pareil, hein.
Non.
Hein. Il y avait des répétitions entre les deux, dont on reprenait. Il y a même dû y avoir un petit peu de re-recording, hein.
Sur le disque, je joue un peu de guitare, je joue un peu de flûte, flûte à citron, de tin whistle, quoi, enfin, flûte à, genre flûte irlandaise. Je chante un bout de chanson, je crois, et je crois que c'est pour la première fois qu'on entend un instrument que j'ai bricolé, enfin une copie plus ou moins fidèle d'un instrument gascon, qu'on appelle maintenant Caromère et qu'on appelait à l'époque Tjalemine ou Tjalemine. Tjalemine, c'était aussi le nom de la cornemuse irlandaise que je n'avais pas encore reconstitué. Donc, bon, c'est un instrument à hanches avec une corne qui ressemble beaucoup aux instruments tunisiens et africains du Nord, dont je ne connais pas le nom. Et donc, je crois que c'était la première fois qu'on entendait cet instrument sur un disque, cet instrument qui n'était plus joué depuis plus de 50 ans. Pierre Gorbefin, on le connaissait depuis quelques années, parce qu'il était directeur ou co-directeur du Conservatoire Occitan. On y allait de temps en temps, et il s'occupait du Conservatoire Occitan et des ballets occitans, donc il connaissait beaucoup, beaucoup plus de choses que nous, au point de vue danse. Et donc, quand il était question de faire la pochette, d'expliquer un peu les danses sur papier, quoi, d'une façon schématique, enfin descriptive, on a fait appel à lui, on pensait que c'était le plus capable. Enfin, nous, on n'était pas très capable de faire ça. On a pensé à lui directement, quoi.
En place pour la gigue. Voilà, vous êtes bien fatigués. En place pour la gigue. On va voir jusqu'à quel point vous tenez le coup. C'est parti.
Explication de la gigue sur le livret Gabriel Valls. Pour danser la gigue, les couples se placent les uns derrière les autres en enlaçant les bras suivant le dessin explicatif. Dans la première partie, le couplet, on avance en pas chassé en partant du pied intérieur. Dans la deuxième partie, le refrain, on lève la jambe intérieure en sautillant sur place sur chaque temps fort. Toutes les deux mesures, grâce à la position des bras, tous les couples peuvent faire un demi-tour pour lever la jambe dans l'autre sens. À la fin du refrain, on repart en pas chassé, en face de soi, donc en sens inverse du départ. Ainsi, la danse s'effectue une fois dans un sens, une fois dans l'autre.
Que j'aime beaucoup, alors peut-être, ouais, c'est mon préféré du vinyle, c'est peut-être une Scottish. Alors, je me demande si c'est, j'ai comme un doute, si c'est Maryse qui l'a collecté, cette Scottish. C'est un air qui fait pam 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 pam
Extrait du livret du disque Gabriel Valls. Si ce disque existe, il est bien l'un des résultats de toutes ces routes pleines de croisements, de ces musiques sans cesse échangées et de ces danses partagées au gré des collectes des folk clubs, des veillées paysannes et des fêtes des saints et des saintes. Si ce disque existe, alors que tous les musiciens qui jouent habitent à des centaines de kilomètres les uns des autres, il est bien un résultat de tous ces colportages grâce auxquels tous ces airs commencent à se promener, à se répandre, défiant l'oubli, le temps et les modes. Nos danses sont là, bourrées d'Auvergne, rondeaux de Gascogne, polka du Berry, valse des samedis soirs de Louisiane. À vous d'en faire des fêtes qui redonnent vie à nos places publiques et à nos granges, à nos noces et à nos baptêmes. Les violons des marchés aux puces ne sont pas faits pour entrer dans les musées. Les cordes vocales remplacent allègrement le nombre d'instruments. Et les accordéons diatoniques ne s'abîment que lorsque personne n'en joue.